Bien. Jusqu'à maintenant, on a évoqué la directive cadre dans des aspects généraux. Nous avons évoqué aussi l'évaluation économique et environnementale. Vient maintenant le temps d'évoquer le troisième volet de cette directive qui sont les aspects participatifs dans le cadre de la mise en place ou de la mise en œuvre de la directive cadre eau. Alors tout d'abord, le cadre idéologique. En effet, en 1992, l'article 1 de la loi sur l'eau déclarait l'eau est le patrimoine commun de l'humanité. 12 ans plus tard, en décrétant que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel, la directive cadre eau renforce l'un des principes de base de la loi sur l'eau, qui est la mise en évidence d'un nécessaire bien commun qui fait appel à la notion de citoyenneté, puisque le bien commun, au sens propre du terme, c'est le bien dans la cité, et qui fait appel aussi à un grand principe qui est la mise en place, la mise en œuvre d'une démocratie participative. Alors, effectivement, cette DCE, cette loi cadre eau, est déclinée selon trois exigences pour arriver à une réussite basée sur la participation active du public. La première exigence, c'est effectivement l'information et la pédagogie sur la gestion de l'eau tout au long du processus de la mise en œuvre de la directive. Il y a aussi, et nous l'avons vu dans les calendriers, des étapes nécessaires de consultation, notamment pour mettre en avant les conflits, mais aussi les enjeux qui font les spécificités territoriales. Et puis, il y a également une phase de consultation du public pour la nécessaire validation des documents produits. Alors finalement, on parle de gestion participative, de démocratie participative, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Eh bien, la gestion participative, c'est associer le public, les concernés ou les acteurs effectifs à différentes choses. L'évaluation d'une situation ou d'un problème, la discussion et l'évaluation des modes d'action possibles, le choix d'un système d'action aussi, la conception de la mise en œuvre, mais aussi l'évaluation et le suivi et la sanction. Alors pourquoi ? Je fais très vite parce que l'objectif ce n'est pas de tenir un monopole mais que vous discutiez de tout ça. Pourquoi solliciter la participation du public dans un principe de démocratie directe ? Eh bien tout simplement parce que ce soit dans la gestion de l'eau ou dans le cadre de la directive cadre eau, eh bien l'objectif c'est d'arriver à une adéquation du local au global. C'est un idéal à atteindre et nous avons vu depuis hier quand même que c'est là peut-être que le bât blesse un petit peu parce qu'on ne sait pas à quel échelon s'adresser, on ne sait pas quelles sont les limites des échelons en termes de gestion. Donc c'est une question relativement cruciale. Alors la participation du public peut-elle être un outil réel pour la mise en œuvre de la directive cadre eau ou plus globalement pour la gestion de l'eau? Eh bien en théorie, oui, et vous le voyez sur cette diapositive, parce que la participation du public peut amener différentes choses. Un apport d'informations locales et des propositions originales adaptées au contexte local, c'est bien là que l'on se situe. Et ces deux points mettent en évidence des spécificités territoriales. Et ça, c'est un point essentiel dans la directive cadre eau. Nous avons également la prise en compte des enjeux, mais aussi par des relations qui s'établissent, de nouvelles relations sociales qui apparaissent, et une possible mise en œuvre de la médiation. Et ça, c'est un fait essentiel, effectivement, pour faciliter l'émergence d'un bien commun. Et ensuite, nous avons un troisième volet, qui est l'appropriation des solutions, puisque des acteurs impliqués sont des acteurs qui vont davantage agir et qui vont s'approprier aussi la mise en œuvre. Il y a aussi des institutions et des régulations locales qui peuvent émerger, et aussi, enfin, une nouvelle culture de la gestion locale de l'eau ascendante qui va pouvoir se développer. Et là, on touche au principe de durabilité qu'il faut nécessairement favoriser. Et ces trois volets qui contiennent différentes choses peuvent permettre justement d'arriver à une meilleure adéquation entre les territoires institutionnels et les territoires fonctionnels sur lesquels on agit. Et c'est bien là que se situe la gestion intégrée. Cependant, ça c'est la théorie. Et effectivement, elle est très belle quand on décline ces différents volets. Mais il n'empêche que cette belle théorie, je lui soumets quelques questions et j'espère que vous allez lui en soumettre d'autres. Et notamment, et en premier lieu, des questions d'ordre général. La première d'entre elles, c'est que l'on parle de bien commun, mais comment développer la solidarité des usagers autour d'un bien commun ? C'est une question essentielle. Comment étudier, concevoir et mettre en œuvre des méthodes de participation du public? Quels sont les outils que l'on a à notre disposition? Quels sont les outils disponibles? Et quelle est leur efficacité? Est-ce que ça a été testé? Et là, je ferai appel à mes collègues italiens, espagnols et français. Et puis, comment intégrer cet aspect de participation du public dans un schéma global de gestion? D'autres questions d'ordre général. Avoir une participation active du public signifie certainement avoir une multiplication des interlocuteurs. Quelles sont les conséquences de cette multiplication des acteurs? Et puis, avoir une gestion participative, ça signifie aussi, peut-être, avoir différents échelons de gestion qui vont remonter à un niveau beaucoup plus global, toute une série d'informations. Et là, là où je me pose une question, c'est est-ce que la multiplication de ces échelons de gestion va réellement favoriser les échanges entre le niveau local et le niveau global? Ça, ce sont des questions dans un premier temps d'ordre général. Ensuite, puisque nous sommes là pour discuter des zones irriguées, eh bien, je me pose également des questions vis-à-vis de ces zones. Notamment, alors, je distingue là les zones irriguées qui ont une vocation essentiellement agricole et puis des zones irriguées, de la région où je viens, qui sont des territoires irrigués mais en recomposition. Donc, pour les zones irriguées agricoles, là, je fais référence peut-être aux zones espagnoles, comment on va concilier ce développement économique et la gestion environnementale? Eh bien, pour la participation du public, ça va générer des questions. Quelles sont les attentes des agriculteurs? Quelles sont les négociations ou les médiations possibles? Est-ce qu'il faut repenser les systèmes irrigués en termes de services? Est-ce qu'il faut repenser le système du droit d'irrigation? Comment aujourd'hui, j'en rajoute une, compte tenu de ce qui a été dit ce matin, comment penser aujourd'hui ce qui sera mis en œuvre demain? Quels sont les acteurs qui seront touchés? Et puis, pour les zones irriguées en recomposition, eh bien, quels acteurs vont être intégrés dans la gestion participative? Quelle représentation ils vont avoir? Quelles utilisations ils font de ces zones irriguées? Quelles sont leurs responsabilités? Comment on peut traduire l'évolution et la diversification des usages qui sont faits dans ces zones en recomposition? Est-ce que ça veut dire qu'à terme, pour s'inscrire dans la directive cadre eau, il va falloir arriver à un stade pour repenser le statut des canaux? Est-ce qu'il va falloir repenser les droits d'usage, puisque les agriculteurs sont aujourd'hui essentiellement concernés, mais il y a d'autres acteurs derrière tout ça? Ça, ce sont des questions que je soumets volontiers à la salle et puis aux responsables, aux représentants des pays concernés.